tous les mois sur Fréquence Mistral, retrouvez votre émission littéraire Des coups au cœur. Émission proposée par Anne-Marie Smith et Tiziana. L'association Littéra 05 vous propose de voyager au gré des pages et de vous évader avec les bouquins coup de cœur.
Bonjour auditeurs de Fréquence Mistral. Le 6 octobre 2021, Littéra 05 a eu le grand plaisir de recevoir en même temps Maëlys de Kerangal et Sylvain Prudhomme, deux auteurs qui comptent dans la littérature française. Sylvain Prudhomme, je vous en avais déjà parlé, je vous avais lu Le Taille-Hué, une histoire écrite par Sylvain. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un récit de Maëlys. Récit, histoire, c'est le terme qu'ils ont choisi pour nommer leur livre. Alors, Maëlys de Kerangal, on ne la présente plus. Tous ses livres, Corniche Kennedy, écrit en 2008, Naissance d'un pont, qui est paru en 2010, qui a reçu le prix Médicis. Tangente vers l'Est en 2012, qui a reçu le prix Landerneau. Réparer les vivants, le fameux Réparer les vivants qui a eu tant de succès à travers le monde entier, qui a été édité en 2014, qui a reçu le prix Orange du livre, le prix RTL Lire. Un monde à portée de main, écrit en 2018. Et puis, dernièrement, Canoë, donc écrit en 2021. Plusieurs de ses livres ont été adaptés au cinéma, Corniche Kennedy, Réparer les vivants, au cinéma et au théâtre. Il y a eu un très beau spectacle autour de Réparer les vivants, qui est passé d'ailleurs au théâtre La Passerelle, La Gape. Alors donc, aujourd'hui, je voudrais vous présenter Canoë en vous lisant justement un des récits. Le livre est un recueil de nouvelles, de récits plutôt, puisque Maëlys ne veut pas employer le mot nouvelle, elle emploie le mot récit. Il y a 8 récits articulés autour d'un des récits Mustang plus longs que les autres. Tous partent d'un même désir de l'auteur, sonder la voix humaine. Pour cela, elle prend des exemples particuliers pour montrer tous les effets, tous les pouvoirs, toute la force de la voix. Elle nous dit que c'est la voix qui nous caractérise. C'est comme une empreinte digitale, nous dit-elle. C'est la traduction, le décodage de notre paysage intérieur. Alors, il y a plusieurs types de voix dans son livre. Il y a des voix qui se sont éteintes à jamais, celles des hommes préhistoriques, par exemple. La voix d'une femme disparue. C'est le récit que je vais vous lire là, tout de suite. Des voix transformées. Celle de Zoé, par exemple, qui a travaillé sa voix pour en diminuer la tonalité féminine. La voix de Sam, le compagnon de la narratrice, dont la voix a changé au contact des Américains quand il est allé vivre aux États-Unis. Il y a des voix blessées. Celle de la narratrice, quand elle enregistre un texte, on se rend compte que les cordes vocales ont subi une blessure il y a assez longtemps. C'est la voix d'un garçon bègue qui bute sur les mots. Il y a un très beau passage sur le cri, signe de notre animalité. Quand tu cries, dit-elle, tu bascules du côté de l'animal. Voilà une courte présentation, je dirais, de son livre. Alors, donc, je voudrais vous lire le récit qui s'appelle « Un oiseau léger ». Vers la fin du repas, les phrases ont commencé à chuter comme des pierres dans les assiettes et les milliers de chuintements infrasonores que produisent deux personnes dînant dans la cuisine d'un vieil appartement, raclement découvert contre la faïence, craquement des chaises de paille, glouglou de l'eau versée dans les verres, bruit des corps, ont progressivement envahi la pièce. Ces changements de tonalité acoustique annoncent désormais que Lise s'apprête à évoquer sa mère, et d'instinct, je me suis rétractée. De fait, je l'ai vue poser calmement ses couverts, s'essuyer les lèvres, se pencher en avant, étendre vers moi son visage que façonnait la lumière indirecte du spot, et peut-être aussi la figure de Rose, à qui elle ressemble parfois de manière troublante, bien que fugitive. Elle a capté mon regard avec une telle intensité que plus aucune esquive ne m'a été possible. « Papa !» J'ai perçu la fébrilité de sa voix, contrôlée mais audible, et l'excès de solennité qui signale l'imminence d'une déclaration. « Papa, je voudrais que tu effaces la voix de maman sur le répondeur du téléphone. » Un courant d'air glacé est passé devant moi et j'ai chaviré contre le dossier de la chaise. Durant quelques secondes, je me suis sentie comme un homme debout sur une rivière gelée qui soudain craque et se morcelle, les lignes de fracture s'étoilant à toute vitesse autour de moi, filant à perte de vue. Les yeux de Lise ne me lâchaient pas, tandis que le silence montait entre nous de plus en plus épais, véhément. Alors elle a posé sa main sur la mienne, puis a répété plus lentement. « S'il te plaît, fais-le. Arrête avec ça. » Après quoi, elle s'est levée pour débarrasser la table et m'a tourné le dos, les mains bientôt plongées dans l'évier, me signifiant de la sorte que ce dîner et cette conversation étaient terminés. Over. Mais je n'en avais pas terminé avec elle, ni avec la voix de sa mère, cette voix que l'on entend effectivement sur le répondeur du téléphone de l'appartement, bien que ma femme soit morte il y a aujourd'hui 5 ans, 1 mois et 27 jours. Aussi, prenant appui sur la table, me suis-je dressée à mon tour et j'ai crié « Non !» Un nom rond et distinct, aussi dense et mat qu'un plomb tiré à la carabine sur un stand de foire. Lise a sursauté en laissant échapper un son aigu, incontrôlable. Les couverts qu'elle a lâchés ont rebondi sur le carrelage dans un fracas de métal. Puis elle s'est cramponnée à l'évier, tête baissée entre les épaules, cou tendu, les omoplates saillantes sous son pull de coton pastel. Elle respirait fort. Je pouvais la voir reflétée dans la fenêtre devenue miroir à la nuit tombée. Paupières closes, bouche ouverte, les commissures des lèvres tremblant de colère. Ma fille aimante et réfléchie, ma fille dure. Ce n'était pas la première fois qu'elle me faisait cette demande, et elle n'était pas non plus la seule à me la faire. D'autres tournaient souvent autour du pot, finissant par avouer qu'ils trouvaient troublant d'entendre la voix de Rose sur le répondeur. Troublant, euphémisme tordu. Indécent ou morbide, eussent été selon eux bien mieux ajustés. Mais ils n'avaient pas le courage de prononcer ces mots. Certains de me ménager, quand moi, certes, je ne les ménageais pas. La douleur de la mort de Rose prolongée au-delà de toute bienséance, pulvérisant les limites que lui fixait la norme sociale, et la bouillie psychologique des magazines célébrant le bien-être et la santé morale. Cette douleur donc, mais peut-être aussi le désir que j'avais de tenir Rose au creux de mon oreille, irréductible, incarnée, cela leur faisait désormais offense. L'irruption de la voix des morts dans le monde des vivants défait le temps. Implose les frontières, l'ordre naturel se détraque, et la voix enregistrée de ma femme tenait toute sa place dans cette confusion. J'avais beau arguer de ma souveraineté sur le vieux répondeur de mon domicile, de l'intimité de ma relation avec elle, avec sa mort, avec sa voix, Lise ne manquait pas de me rétorquer que mon répondeur était un espace ouvert à tous, un intermédiaire social. « Tu ne vois donc pas que tu passes pour un fou » a-t-elle murmuré du fond d'un puits de tristesse. Et quand enfin elle a fait volte-face, son visage était si proche du mien que je pouvais me voir dans ses iris baignés de larmes. « Bonjour, vous êtes chez nous, mais nous n'y sommes pas. Laissez-nous un message et nous vous rappellerons. » Tel un oiseau léger, la voix de Rose a circulé dans la pièce obscure. Elle a frôlé les murs, les fenêtres, les étagères. Elle est entrée en expansion dans l'espace, conservant en fin de bande assez d'énergie pour produire une étrange vibration. Comme si elle s'éloignait sans s'éteindre. Comme si elle s'estompait, mais sans disparaître tout à fait. Rémanence mystérieuse du fading. Lise et moi sommes repliés dans le salon éteint, tels deux aveugles en canoë ramant contre le courant. Assise par terre en tailleur, Lise a attendu la fin du message, la tête basculée en arrière, les yeux au plafond. C'est la première voix que j'ai entendue, a-t-elle dit très calme, comme si elle prononçait ces mots depuis les profondeurs d'un songe. Je la reconnaissais avant de naître. Je la distingue entre mille. Je me tenais aux accoudoirs du fauteuil, tendue dans l'écoute. Lise a levé une main contre sa tempe et le regard orienté vers le sol, elle a scandé. « Je l'ai dans l'oreille, cette voix. Elle ne m'a jamais quittée. Elle ne s'est pas effacée et je n'ai pas peur de la perdre. C'est la sienne. » À cet instant, les phares d'une voiture qui sortait du parking de l'immeuble d'en face ont éclairé la pièce d'une lumière très jaune. Le plafond a semblé s'arrondir comme une coupole, plus vaste, plus sonore. Et dans cette lueur mobile, j'ai vu mon enfant se redresser, brusquement ramené à la douleur, et d'une seule traite en trouver l'accès. Sa voix enregistrée est au présent pour toujours, mais c'est un autre présent. Un présent où sa mort n'a pas eu lieu, un présent qui ne coïncide jamais avec celui de ma vie. Et ça me rend dingue, et ça me fait mal. Après un laps de silence, elle a repris déchirante. Contrairement à ce que tu penses, mon chagrin s'intensifie chaque fois que je tombe sur ce message. Je finis par ne plus appeler chez toi par peur de l'entendre. Pense aux autres. Efface-la. Bonjour, vous êtes chez nous, mais nous n'y sommes pas. Laissez-nous un message et nous vous rappellerons. Le soir de la mort de Rose, au retour de l'hôpital, j'étais assis à cette même place, déjà dans la pénombre. À la première sonnerie, quand j'ai entendu ces mots « Vous êtes chez nous, mais nous n'y sommes pas », j'ai tressailli comme si de ma vie je n'avais entendu de vérité plus nue. Oui, nous n'étions pas là, nous ne le serions jamais plus, c'était fini. Le téléphone a sonné jusque tard dans la nuit, mais je n'ai pas décroché, pas une fois. Je voulais entendre revenir cette voix unique au monde, cette voix qui contenait Rose tout entière, matérielle, bien qu'impalpable, physique comme seule une voix peut l'être. Mais à l'aube, après tant d'écoute, autre chose remuait en moi. J'ai imaginé que la voix de Rose avait décampé in extremis du corps qui l'abritait, qu'elle s'était sauvée avant qu'il ne devienne cette dépouille froide, occultée d'un drap rêche, pour revenir ici, et que ce nous perdure, et continuer, réactiver à chaque écoute, dans un présent infini. Sa voix lui survivait sous une forme enregistrée, inusable, sous la forme d'un oiseau léger. Au matin, j'ai réalisé qu'il n'existait aucun autre enregistrement de la voix de Rose, et je l'ai gardé. Bonjour, vous êtes chez nous, mais nous n'y sommes pas. Laissez-nous un message et nous vous rappellerons. Dès les premiers mots prononcés, la scène se réimpose. Veille de départ en Grèce, urgence d'un répondeur en marche, Rose en jean et t-shirt à rayures, pieds nus et ongles faits, lunettes rondes et mode d'emploi ouvert sur les genoux, suivant étape par étape la marche pour enregistrer l'annonce, essayant quelques formules, laconiques ou ampoulées, et finissant par stabiliser cette phrase dont elle conserve la première prise. C'est une voix claire et dorée, une voix d'île grecque en juin, une voix dilatée dans un souffle, la voix d'une femme sur le départ. Pourtant, ce n'est pas ce souvenir que je veux faire revenir quand j'appelle chez moi, parfois du bout du monde, parfois au cœur de la nuit, simplement pour me connecter l'espace d'un instant à cette sonorité si réelle. L'écouter accueillir les messages en prononçant ce « nous » inoubliable. C'est ce que j'ai répondu à Lise qui attendait que je parle à mon tour. S'était rapprochée à présent et avait posé la tête sur mes genoux. Ses cheveux blonds et fins créaient une auréole claire dans l'obscurité et son oreille était délicate, comme le nid d'une mésange. Ce que je recherche, lui ai-je dit, m'efforçant moi aussi de poser des mots simples sur l'émotion si complexe qui me traverse chaque fois. Ce que je recherche, c'est la sensation de sa présence. Rose est là, simplement. Bien sûr, je sais que cette voix n'est pas Rose, qui est morte et ne reviendra plus, mais elle est pour moi une manifestation de Rose vivante, ce jour où elle a enregistré ce message radieux, à la veille de partir en vacances. L'absence de Rose est-elle trop présente dans ma vie? Occupe-t-elle une place trop importante? Lise se demande parfois à voix haute si l'enveloppe spectrale de la voix de ma femme ne serait pas devenue une passion morbide. Elle affirme que je suis sous l'emprise de son fantôme, évoque un déni de réel, a même fini par conclure l'autre jour que je cherchais à garder les morts en vie. Et j'ai aimé cette expression, je reconnais qu'elle est juste. Pourtant, c'est elle qui continue de porter les espadrilles de sa mère, ce trench coat mastique qui lui donnait l'allure d'une passagère de la nuit, ses chemises d'homme et même ses gants. C'est elle qui furette dans ses traces. Depuis quelque temps, elle parle de refaire le dernier voyage de Rose, qui partait seule plusieurs semaines chaque année avec carnet, crayon et appareil photo. De prendre les mêmes trains, de faire escale dans les mêmes lieux, de contempler les mêmes paysages. Je finirai par déceler ma propre trajectoire, dit-elle. Bien que cela me bouleverse, je l'encourage. Ces mouvements, ces actes qui continuent de tisser les liens entre les vivants et les morts, au-delà des cimetières, au-delà des urnes oubliées dans l'obscurité des niches, au-delà des dates anniversaires et des cadres qui exposent les photographies des défunts sur les murs des maisons, à la vue de tous, ces gestes concrets qui demandent de se hisser en secret à hauteur d'absence me semblent toujours plus affranchis et surtout plus antalgique que la pénible abstraction du deuil. Lise a pleuré en silence longtemps, et j'ai pleuré avec elle, ma fille unique. Cela ne nous était jamais arrivé, l'un de nous deux gardant toujours les yeux secs, sans doute pour mieux guider l'autre. J'ai su alors que je pouvais le faire, remettre le temps en ordre, que le moment était venu de soulager ma fille en redevenant celui qui ne saurait davantage passer pour un fou. Tout est allé très vite. Je me suis levée d'un bond et j'ai marché vers le répondeur, bras et index tendus devant moi, sur le point d'enfoncer le bouton rouge, prêt à effacer la bande en une seule pression. Mais à cet instant, prise de court, Lise a crié « Attends !» Sa voix m'a rattrapée « Just in time ». Et j'ai vu sa silhouette sombre qui agissait dans le noir à toute allure. Elle a saisi mon portable sur le bureau, a frappé le code, la date de naissance de Rose, a allumé le dictaphone, a mis en marche le répondeur, et la voix de Rose s'est élevée dans la pièce. Elle a voltigé de nouveau le long des corniches, au ras du sol, devant les fenêtres. Elle a plané longtemps. Élise l'a enregistré, migrant du répondeur vers la mémoire de mon téléphone. Cette voix devenait une archive. Après quoi, elle a fait exactement la même chose avec son portable. « C'est pour moi », a-t-elle murmuré, concentrée, les iris miroitant sous ses paupières de bronze. L'instant d'après, dans mon oreille, l'enregistrement de la voix enregistrée de Rose, cette double capture, était devenue tout autre chose. Une femme sur le départ y annonçait notre absence et faisait entendre sa vibration lointaine depuis ce salon nocturne où nous avions parlé côte à côte, Lise et moi, et pleuré ensemble. Tu peux effacer le répondeur. Elle me regardait dans le noir, le téléphone posé sur son plexus solaire. J'ai appuyé sur le bouton rouge et j'ai libéré l'oiseau léger. Merci pour votre écoute. À bientôt. All I've done so much wrong.